Chers auditeurs de La Fabrique, bien le bonjour. Troisième épisode de mes aventures en Avignon et parlons aujourd'hui de spectacles contemporains. Le théâtre d'aujourd'hui où leurs auteurs sont encore des nôtres pour notre plus grand plaisir. Commençons par Un amour à Tiananmen de Thierry Laurent qui se joue au théâtre Pandora à 16h45. Un amour à Tiananmen nous fait découvrir l'histoire de Liu Qing, un prisonnier chinois en soif de liberté qui se retrouve dans les prisons de la Chine communiste. Une pièce de théâtre qui transforme la violence et la haine en conte poétique. Thierry Laurent, vous êtes l'auteur de ce magnifique pièce de théâtre, Un amour à Tiananmen. Ma première question va être à la fois simple et compliquée. Comment définir un amour à Tiananmen? Pourquoi vous avez voulu écrire cette pièce de théâtre?
Alors, il y a plusieurs questions. Pourquoi, comment définir un amour à Tiananmen, c'est une première question. Et pourquoi j'ai voulu écrire cette pièce de théâtre? Alors, ça, c'est les circonstances qui m'ont fait écrire cette pièce de théâtre. Moi, j'étais membre d'Amnesty International et je me suis occupé d'un dissident qui s'appelait Liu Qing. Ce dissident a écrit un manuscrit en prison et il a sorti son manuscrit clandestinement. En fait, c'était par l'ambassade de France. Et ça a donné un livre, J'accuse, devant le tribunal de la société. Alors, la démarche de Liu Qing, c'était de manifester sa réprobation en 1978 et de sortir ce manuscrit. Son histoire m'a beaucoup passionné parce qu'il est dans un camp, il est enfermé dans un camp, il sort clandestinement un manuscrit, on lui en fait reprendre pour 10 ans de prison. Et donc j'avais eu le dossier de Liu Qing d'ailleurs par Amnesty International et le personnage m'a fasciné. Et donc j'ai voulu écrire une pièce sur lui, donc j'ai écrit cette pièce. Et alors dans le premier acte, c'est l'interrogatoire de Liu Qing par le policier. Second acte, ça c'est de la fiction, j'ai inventé une histoire d'amour. Et là il y a une dissidente de 1989, pas une dissidente, une étudiante de 1989 se retrouve dans la même cellule que Liu Qing. Et là ce qui m'a intéressé c'est de faire un dialogue entre Liu Qing qui est un dissident des années 70 et la jeune fille qui est une rescapée des manifestations de Tiananmen et d'établir un dialogue, une confrontation entre un politique assez classique, nourri de, comment dirais-je, de des philosophes français et une dissidente plus, comment dirais-je, imprégnée par la vie moderne et nourrie de Madonna et des tubes actuels. Alors ces deux visions de la politique, de la liberté, pardon, une vision très hédoniste, très consumériste et l'autre une vision très politique, très construite sur le plan théorique. Voilà. Et alors après, j'ai inventé cette histoire de viol, de faux viol ou d'accusation de viol et ça pour faire un scénario, voilà.
C'est une pièce, un texte en tout cas violent. Est-ce que la violence peut être sublime? C'est vrai que ça rend une pièce belle, une pièce limite poétique. Est-ce que c'était ce que vous vouliez passer comme message, que derrière la violence, il peut y avoir justement une beauté?
Bah, si vous voulez, malheureusement, le mal nourrit la beauté. C'est triste à dire, mais il n'y aurait pas eu Les Misérables. Il faut bien Les Misérables pour écrire Les Misérables. Là, la violence qui s'est passée à Tiananmen, la dénoncer, on essaie de la dénoncer, mais de la dénoncer de façon esthétique. On essaie de la dénoncer pour que le public vienne. Alors, pour que le public vienne, bah, il faut trouver une manière d'esthétiser, malheureusement, quelque chose qui est infect, mais un peu d'esthétiser la violence. Voilà. Et c'est vrai que guerre et paix, s'il n'y avait pas eu de guerre napoléonienne, il n'y aurait pas eu guerre et paix. Et malheureusement, beaucoup de textes se nourrissent de la violence et parfois des atrocités. Donc transcender la violence, la dénoncer, ça exige d'avoir une démarche esthétique.
Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux coups de cœur. En effet, comment choisir entre le magnifique et le sublime? Commençons par « Toi, tu te tais » de Narcisse qui se joue au théâtre La Luna à 13h10. 9 écrans de télévision, un slammer grandiose accompagné par un guitariste au talent incommensurable, un test écrit avec une justesse telle qui fait réfléchir. Bref, voilà ce qu'est Narcisse, « Toi, tu te tais ». À mi-chemin entre le théâtre contemporain, le spectacle musical, Narcisse, « Toi, tu te tais » est une véritable œuvre d'art à vivre.
C'est vrai que ce que je fais, ce sont des spectacles qui sont difficiles à catégoriser, à définir, à décrire. Mais disons, le plus important, le point de départ, c'est de dire que ce sont des spectacles qui mélangent musique, vidéo et texte et poésie. Et je travaille les trois en même temps, les trois ensemble. C'est pas un texte sur lequel quelqu'un a écrit de la musique et puis après quelqu'un vient faire un clip là-dessus. C'est dès le départ, je travaille l'image, la musique et le texte pour essayer de créer un objet qui tienne la route, qui ne soit pas redondant tout le temps, où les images ne montrent pas toujours ce que je dis. Des fois, les images m'aident ou aident le spectateur à comprendre ce que le texte dit, parce que le texte tout seul pourrait être un peu sibyllin. Donc voilà, mais ça n'a pas de nom, ce que je fais. Certains parlent de spectacle total, mais bon, ça me semble un peu ambitieux. D'autres parlent d'opéra, là aussi c'est un peu ambitieux, mais ça me parle bien, parce que c'est vrai que l'opéra, c'est un spectacle dans lequel il y a tout. Il y a de la musique, du texte, de la danse, de la mise en scène, et tout. Alors c'est un peu ça.
Toi, tu te tais, c'est une phrase qu'on entend souvent. Pourquoi cette phrase ? Pourquoi ce « toi, tu te tais » ?
Justement parce qu'on l'entend trop souvent. Depuis l'enfance, on dit aux enfants « tais-toi » et on leur met une sucette dans la bouche pour qu'ils se taisent. Puis après, à l'école, la maîtresse d'école passe ses journées à dire aux élèves « taisez-vous, faites le silence ». Et puis après, les femmes, heureusement c'est en train de changer, mais les femmes, on leur dit « sois belle et tais-toi ». Et puis les ouvriers dans les entreprises, c'est « taisez-vous ». Vous n'y connaissez rien, laissez décider les patrons. Et ce sont toutes ces situations que j'avais envie de mettre en poésie et de décrire pour les critiquer, pour les dénoncer.
Vous slamez beaucoup, vous êtes un génie du slam, vos mots coulent tout simplement. Est-ce que vous vous définissez comme slameur ou est-ce qu'on peut définir autre chose en parlant de Narcisse ?
Oui, on peut penser à différentes choses. En fait, j'aime bien, moi, qu'on me définisse comme slameur, mais je me rends compte que le slam est assez méconnu et qu'il a une image assez négative, malheureusement. Il y a beaucoup de gens, surtout quand je me promène à Avignon et que je dis que je fais un spectacle de slam, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, le slam, on n'aime pas trop, c'est comme du rap, et puis ça parle des problèmes de banlieue. » Et pas du tout, en fait. Le slam n'est pas issu du rap. Le slam, c'est juste un moment où on dit de la poésie. Alors, je fais du slam. Mais je ne fais pas que ça, comme on en a parlé tout à l'heure. J'utilise de la vidéo et de la musique et ce que je crée, ce ne sont pas des spectacles de slam. Le slam au sens strict, c'est sans musique, sans accessoires, sans rien du tout. Donc c'est plus que du slam, mais c'est issu quand même de la culture slam, si on veut.
Est-ce que le slam n'est pas au XXIe siècle ce que la poésie était au XVIIe ? Est-ce qu'en fait, quand on voit vos spectacles, ce n'est pas un poète qui est devant nous ?
Oui, merci, ça me flatte, j'espère être un poète, bien sûr, le slam c'est de la poésie, c'est que ça même. Et la poésie, on avait perdu un peu depuis un siècle son côté oral, on lisait la poésie dans des livres et encore très peu, hein, peu de gens s'intéressent vraiment à la poésie, mais on la pratiquait plus. Et le slam a donné un coup de fouet à ça, a fait revivre la poésie, a fait que des gens se réunissent dans des bars, dans des villes, pour écouter et dire de la poésie. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est ça la grande force du slam.
Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Anima Ardance, du chorégraphe belge Thierry Smith, qui se joue jusqu'au 15 juillet à la Manufacture à 19h50. Alors courez vite voir ce spectacle de danse où 11 danseurs nus vous emportent dans leur univers, dans leur initiation grandiose qui vous prend par les tripes, vous retourne le cœur et vous libère l'esprit. Amina Ardance ne s'explique pas, il se vit, il vous transporte dans une transe magique, limite chamanique, qui vous marquera à coup sûr. Thierry Smith, bonjour.
Bonjour.
La première question, c'est un peu comment définir l'indéfinissable. Comment vous définiriez votre pièce Anima Ardance ?
C'est une suite de trois rituels différents, dont deux sont plutôt des rituels de collectif. Et le centre du spectacle, en fait, comme c'est plutôt un travail sur la possession, c'est plutôt quelque chose d'individuel.
Alors vous travaillez avec la nudité, avec un mélange de corps. Pourquoi choisir cette nudité ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la nudité ?
Les rites qui amènent à la transe ou à la possession, ce sont plutôt des choses très universelles. Je voulais aussi que cette universalité transparaisse sur scène par les interprètes. Et donc, pour moi, la nudité, c'est ce qui était le plus évident pour faire paraître justement cette universalité.
Est-ce que vous vouliez, par cette pièce, faire passer un message ? Est-ce qu'il y a une intention de votre part, une invitation au voyage ou quelque chose ?
Alors, oui, forcément, on a toujours envie de faire voyager les gens quand on fait une pièce. Ici, dans ce cas-ci, la particularité, c'est justement, je dirais que, d'une part, la diversité fait la force, parce qu'il faut une forme de solidarité pour arriver à cette transe finale. Et oui, quelque part, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais quelque part, il y a aussi un côté... entre guillemets spirituel dans cette pièce, parce que il y a une sorte de transcendance des individus, cette force commune qui fait que il y a un type d'énergie qui se développe, qui embarque très très facilement le spectateur.
Alors on est un peu comme dans un cocon vibratoire dans cette pièce, beaucoup de rock, beaucoup de sons de voix et une musique magnifique de Francesco Lopez. Qu'est-ce qui vous a amené à cette participation avec ce musicien ?
Alors, j'ai découvert le travail de Francesco Lopez pendant un voyage au Mexique parce que j'étais accompagné d'un copain musicien qui avait cette musique avec lui. Donc, un soir, il m'a fait écouter. Je dis, tiens, c'est vraiment intéressant, je ne connais pas du tout. Donc, il faut savoir que Francesco Lopez, au départ, c'est un chercheur en biologie, un spécialiste des insectes, entomologue, qui faisait son travail de recherche dans les forêts vierges et qu'il a totalement abandonné ce travail suite à sa fascination pour le son ou les sons qu'évoque l'environnement naturel. Alors, ce n'est pas du tout un son New Age, hein, ce n'est pas du tout le chant des baleines, au contraire, c'est très, très angoissant parfois. Je lui ai demandé de travailler sur trois climax, en plus quand je lui ai dit que j'allais travailler sur des rites, ça d'office très très fort intéressé. Donc, c'était plutôt une collaboration vraiment facile. Je lui ai demandé de travailler, donc, de me faire trois climax différents. Donc à chaque fois que ça démarre lentement, mais que ça aboutisse à oui, une force presque primale comme ça. Et je pense que la musique, c'est en fait réellement la scénographie du spectacle d'ailleurs.
Ma dernière question, elle est très simple. Qu'est-ce qui vous a pris par la tête de vouloir nous emmener en transe comme ça ?
Mais je pense que la transe, c'est pas du tout quelque chose qui a disparu. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est encore toujours très présent. Vous savez, quand on voit des jeunes qui dansent jusqu'à 5 heures du matin dans tous les festivals du monde, ben en fait, c'est quelque part oui, une sorte de rituel de transe. Mais en dehors de cela, c'est encore très vivant. Même au sud de l'Italie, il y a la tarentelle, il y a dans plein de cultures partout à travers le monde des gens qui vivent encore des choses de un peu extraordinaires. Il y a le chamanisme partout qui est encore assez vivant. Et je me disais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont actuellement à la recherche de ce type d'expérience et que donc ça pouvait être intéressant de créer nous-mêmes trois rituels, nouveaux rituels et les proposer aux spectateurs.
C'est pas un peu de votre part aussi une soif de liberté ?
Mais c'est clair que dans ce spectacle, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Vous savez, quand on est créateur, on ne maîtrise pas toujours tout. On ne maîtrise jamais vraiment le résultat final de son œuvre ou ce que ça peut raconter finalement à celui ou celle à qui c'est adressé. Mais c'est clair que comme on voit ici un échantillon d'humanité dans toute sa diversité, en plus dans sa nudité fragile, et quand on voit ces gens travailler ensemble et suer ensemble dans ce spectacle, c'est vrai que ça donne aussi un sens de liberté.
Merci beaucoup Thierry Smith. Ouais. Ainsi s'achève cette troisième chronique en Avignon. Je me réjouis de vous retrouver dès demain, même lieu, même heure. À très vite les amis sur La Fabrique.